C'est moi, c'est Lola.
Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Cindy Sherman, photographe, née en 1954, américaine. Œuvre, son œuvre photographique est filmée depuis 1976. Personnage, le corps de Cindy Sherman. Le moi n'est pas le jeu et le jeu n'est pas nécessairement l'expression du moi. En littérature, il n'y a pas besoin du jeu pour exprimer le moi. Des écrivains narcissiques et timides l'ont assez montré par l'école de l'autofiction, tandis que des plus rusés savent très bien faire déborder leur moi, quel que soit le locuteur de leur livre, même un nil. En littérature, le jeu peut être un moyen non d'exprimer l'intimité, mais d'aller plus vite. On dit jeu pour ne pas dire « il me semble que », « il se peut que », les analyses montreraient que ce jeu est une expression moins précautionneuse d'une pensée générale. Y a-t-il un équivalent de ce jeu différent du moi en photographie ou en peinture? Des peintres ont utilisé leur figure pour représenter autre chose que leur moi. Pour y arriver, il a fallu la quantité qui n'est pas aussi opposée à la qualité que de naïfs moralistes le pensent. Un seul portrait d'un peintre par lui-même est un autoportrait. À partir d'une certaine quantité, et surtout s'il se représente dans des situations et des vêtements à chaque fois différents, on comprend que c'est autre chose. Le plus génial exemple en est Rembrandt. Avec une gaieté d'enfant qui met des panoplies, il s'est représenté en philosophe, en marchand, en prince. Et dans ses portraits, il n'est plus Rembrandt, mais Rembrandt jouant de l'idée de représentation. D'autres peintres ont fait cela, comme Giorgio de Chirico, dans ce qui est considéré comme sa mauvaise période, et qu'il est, celle d'après 1925, quand il a abandonné la peinture dite métaphysique et est passé à la peinture bourgeoise. Il se montre lui aussi grimé, par exemple un aristocrate renaissance à cheval. Là, il ne s'agit pas du tout de montrer un autre, il s'agit de se montrer lui-même en vengeur. Il se peint glorieux afin de narguer ce qu'il avait jugé traître à son art. « Je vends très bien mes toiles et je vous emmerde. » Ah, pauvre cynisme. L'artiste, se prenant pour modèle et pour exprimer autre chose que son moi, cela existe bien sûr en photographie. Un des cas les plus célèbres est Cindy Sherman. À l'exception d'une série en 1999, elle s'est toujours prise pour modèle. On pourrait dire que son corps, sa personne physique, lui sert de moyen de créer des personnages comme ceux que l'on peut voir en ce moment, à Venise, à l'exposition Dancing with Myself à la Punta della Dogana. On la voit en ménagère à cabas, en jeune fille blonde à cuisses dénudées, en collégienne morose, en homme même, un cadre à cravate portant un attaché case ou en jeune noire rêveuse. Cindy Sherman serait-elle une nouvelliste en photo ? Pour parler de Cindy Sherman et de ses personnages, à l'occasion de cette exposition Dancing with Myself, je reçois Martin Bettno, directeur du Palazzo Grassi Punta della Dogana et directeur général délégué de la collection Pinault Paris et de son musée. Martin Bettno, à quoi ressemble Cindy Sherman dans sa vie non photographique, si je puis dire ?
Cindy Sherman, dans sa vie non photographique, on la voit assez fréquemment, on la voit sur Internet, si on cherche sur YouTube ou sur d'autres sites Cindy Sherman, on va la voir répondant à des interviews, choisissant ses perruques, etc. C'est une femme étonnamment jeune, elle a une petite soixantaine d'années, elle paraît beaucoup moins, blonde, menue, cette chose assez extraordinaire que... alors qu'elle ne porte aucun maquillage, alors qu'elle ne porte aucune perruque, alors que dans toutes ses photographies, on ne l'a jamais vue au naturel, on la reconnaît quasi instantanément.
Quels sont les rapports de sa, avant d'entrer plus avant dans cette histoire de personnage, quels sont les rapports de sa photographie avec celle de gens comme Richard Prince ou Barbara Kruger? Comme on sait, ils ont été exposés tous les trois ensemble dans une fameuse exposition du Metropolitan Museum de New York en 2009, The Pictures Generation.
Alors il y a avec des artistes comme Richard Prince ou Barbara Kruger effectivement une homogénéité de génération. Ils viennent du même endroit, ils se sont d'ailleurs souvent connus, ils ont travaillé ensemble dès les années 80, dès la fin des années 70 même. Mais je crois que Cindy Sherman a quelque chose d'assez unique qui est, par rapport à Richard Prince, le fait d'avoir une forme de systématisme absolu de sa production. production qui, des premières œuvres des années 70 jusqu'à ses œuvres les plus récentes qu'elle fait désormais sur Instagram, n'a pour unique, non pas sujet, mais pour unique matériau elle-même. Et donc, on est dans une forme de rigueur absolue du procédé qui, en revanche, a donné lieu à une très, très grande variété de réalisations. Il y a également, par rapport à Richard Prince, un même recours à l'ironie, une même dimension qu'on pourrait, dans certains cas, qualifier, qu'on a pu, certains cas, qualifier de post-moderne. Il y a, comme chez Barbara Kruger, une dimension féministe, il y a une dimension politique, mais je crois que Cindy Sherman réussit à mélanger tout cela d'une manière assez extraordinaire, à n'être jamais pesante, à n'être jamais donneuse de leçons, et à être toujours étonnante, toujours frappante, avec une dimension d'ironie que je trouve très importante.
J'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire postmoderne.
Moi non plus, je ne suis pas certain que qui que ce soit l'ait jamais compris, puisque c'est une dénomination qui est rarement utilisée de manière objective. Elle l'est souvent de manière péjorative, ou elle peut l'être au contraire revendiquée, mais c'est une définition. C'est un mot auquel on voit assez rarement des définitions objectives qui pourraient s'appliquer à plus d'une personne à la fois.
Pour revenir à Cindy Sherman, elle n'a pas le narcissisme maladif de Francesca Woodman, ni l'humour sentimental que peut avoir Nan Golding. Il me semble, et vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'on pourrait la rattacher plus à Claude Cahun. Claude Cahun a dit à propos de ces photos où elle aussi se sert de son corps pour montrer autre chose, un personnage, j'étais hors de moi. Et la chose intéressante, c'est que Cahun, comme on s'en souvient peut-être, était la nièce de Marcel Schwob, l'auteur de ces géniales vies imaginaires tant imitées depuis. Et est-ce qu'au fond, il n'y a pas une part de vies imaginaires dans ce que montre Sherman ?
Alors, il y a une part, en tout cas, le rapprochement entre Cindy Sherman et Lucie Schwob, Claude Cahun, est effectivement très important. Il y a eu d'ailleurs des expositions marquantes qui les ont rassemblées toutes les deux. Et à un demi-siècle de distance, il y a chez l'une comme chez l'autre cette même idée que, et là je reprendrai d'autres mots de Claude Cahun, derrière le masque il y a un autre masque, puis un autre masque, puis un autre masque, je n'en finirai jamais de soulever tous ces visages, disait Claude Cahun. Et on a l'impression qu'au long de son œuvre, Cindy Sherman ne cesse jamais de soulever tous ces différents masques. Dans ce jeu, dans cette idée du masque, il y a aussi cette double dimension, cette grande ambiguïté du masque qui est comme la larva antique, qui est à la fois le masque mais aussi le spectre, puisqu'il y a chez Sherman une dimension joueuse, légère, amusante, mais aussi très souvent une dimension beaucoup plus inquiétante, hantée par la mort, obsédée par l'entropie, par la destruction. Et c'est justement l'équilibre entre ces deux polarités qui est, je crois, très intéressante.
Comment est-ce qu'elle photographie ? Il me semble qu'elle a un certain systématisme, si je peux employer ce mot, dans les distances qu'elle met par rapport à son sujet, c'est-à-dire elle-même, qu'elle photographie toujours à une certaine distance, ni trop près, ni trop loin, et que dans cette, pas nécessairement un fond, quoi qu'elle en ait acquis depuis plusieurs années, est-ce que cette distance entre deux, comme ça, n'est pas là pour nous signifier une intention de commentaire ?
Alors, il y a la distance, il y a aussi le miroir, puisque beaucoup de choses ont changé dans la production de Cindy Sherman au cours de 40 années de quête obsessionnelle d'elle-même ou de quelqu'un qui n'est pas elle-même. Il y a la constance, donc on est passé de petits formats noir et blanc à des grands formats couleurs, on est passé de systèmes très bricolés dans lesquels on voit apparaître sur les premières images le fil du déclencheur à distance sur lequel elle va appuyer avec son pied, alors qu'aujourd'hui ce sont des dispositifs beaucoup plus sophistiqués. Peu à peu, le trucage numérique est apparu jusqu'à aujourd'hui où elle utilise aussi les filtres qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux pour ses publications sur Instagram. Une chose n'a pas changé, c'est ce recours au miroir. C'est-à-dire que lorsqu'elle réalise sa prise de vue, qu'elle déclenche elle-même, elle se voit elle-même dans le miroir qui est en face d'elle, qu'on ne voit pas, bien entendu. Et elle expliquait dans certaines interviews, notamment au moment de son exposition au MoMA, qu'en fait, elle dit « Il se peut que je sois en train de penser à une certaine histoire ou une certaine situation, mais je ne deviens pas le personnage de cette situation. C'est l'image dans le miroir qui devient ce personnage, l'image que l'appareil va ensuite capturer sur la pellicule. » Et donc, il y a vraiment cette sorte de c'est dans ce qu'elle est seule à voir, le reflet dans le miroir, que se passe cette sorte de transformation de la personne en personnage.
Mais c'est aussi une mise à distance.
C'est une mise à distance, bien entendu, c'est une mise à distance réflexive.
Vous disiez qu'il y a eu une évolution. Quelle est l'évolution qu'on peut constater le plus récemment dans ce que vous montrez, vous, à Venise en ce moment?
Alors, la grande série de 2016 qu'on montre à Venise est une évolution. Alors, il y a deux salles. On passe de cette série de 2016 à son exact contraire chronologique, qui sont ces toutes premières photos des années 70, au moment où elle n'est même pas encore à New York, où elle est encore à Buffalo, et où elle prend elle se met en scène en personnage qu'elle aurait vu dans les transports en commun de Buffalo. Les dernières images, celles de 2016, sont de très grands tirages, magnifiques de qualité, tous en couleur, dans lesquels Cindy Sherman va incarner un certain nombre de personnages d'actrices du muet. On peut imaginer Lillian Gish, on peut imaginer je ne sais pas, Marie Pickford ou d'autres, là où ces actrices à l'époque du muet étaient bien entendu jeunes, elle vient aujourd'hui incarner ce que ces actrices du muet auraient pu devenir si on les voyait à l'âge d'une soixantaine d'années, toujours dans des robes du soir extrêmement sophistiquées, dans des décors eux aussi très très raffinés, mais toujours maintenus dans le flou, dans lesquels on a des scènes un peu de Riviera ou de choses comme ça, devant lesquelles ces dames extrêmement nostalgiques, qui ne regardent jamais le spectateur, qui ont toujours le regard un peu perdu vers l'infini, ont cette dimension de diva nostalgique.
Il s'agit bien de fiction tout de même, parce que dans une interview, elle dit « Dans certains de mes portraits, je vois un moi qui aurait pu exister si j'avais décidé d'être autre chose qu'une artiste, agent immobilier par exemple, si j'avais fait les foutues études que voulait ma mère. » Donc c'est aussi une part de mise en fiction, non pas d'elle-même, mais d'autre chose.
Alors, ce qui est assez formidable dans l'œuvre de Cindy Sherman au long cours, à la fois dans son systématisme et en même temps dans la variété à laquelle elle va donner lieu, c'est que à aucun moment on est devant quelque chose de simple. Tout ça paraît extrêmement simple, mais il y a toujours une part de mystère. Ce n'est jamais Cindy Sherman qui se représente, c'est toujours elle qui se met en scène. Elle n'est jamais le sujet de ses photos, elle en est le vecteur, elle en est le mandataire, comme je ne sais pas, le danseur va exécuter une pièce chorégraphique. Et pourtant, au bout d'une quarantaine d'années de travail comme ça aussi systématique, quelque chose se dessine d'elle-même. Et donc, c'est en refusant toujours cette représentation d'elle-même qu'elle finit par en donner tout de même une idée.
Oui, mais ça, est-ce que c'est pas nous qui la portons par l'habitude que nous avons de ces portraits et qui, la voyant vieillissant, nous projetons, nous, cette idée, tiens, elle change?
Alors, c'est plus compliqué que ça, puisque à la différence de Rembrandt, qui lorsqu'il est jeune se représente jeune, puis lorsqu'il est mûr se représente mûr, et lorsqu'il est vieux se représente vieux, Cindy Sherman, dès les années 70, se représente homme, femme, noire, blanche, jeune, vieille, et aujourd'hui, lorsqu'elle se représente en vieille diva du muet, qu'est-ce qui nous dit que la main qu'on voit sortir du peignoir ou de la robe du soir est bien sa main à elle et n'est pas à nouveau un postiche qui surjoue les traces du vieillissement? Qu'est-ce qui nous dit que les marques de ce vieillissement sont bien réelles et ne sont pas eux aussi des artifices?
Donc c'est bien ça, c'est une fiction, mais qu'est-ce qui l'empêcherait à ce moment-là de retoucher ses photos pour se rajeunir dans des photos où maintenant elle est vieille en tant que modèle, si je puis dire?
Alors je pense qu'elle ne se l'interdit absolument pas.
Elle
et d'ailleurs sur Instagram, dont elle est devenue un acteur assez intéressant depuis quelques années, elle le fait.
Ces photos, la plupart du temps, sont sans titre. Les séries portent un titre, mais chacune des photos n'a pas de titre. Comme si c'était à nous de nous débrouiller pour comprendre son intention, qu'elle ne dit jamais, bien sûr. Et on l'a parfois réduite, je dirais, à de la photo féministe, ce qu'elle a elle-même contesté. Est-ce que ça n'est pas plutôt, et vous parliez de pastiche ou de parodie ou d'utilisation des codes des réseaux sociaux, est-ce qu'elle s'attaque tellement à la représentation des genres ou plutôt à tous les stéréotypes de la représentation? C'est pas uniquement une photographe de la critique du genre ou de la féminité.
Alors je pense que ce n'est pas uniquement une photographe critique de la représentation de la féminité, ce n'est pas uniquement une photographe critique de la notion d'identité. Bien entendu, ces thématiques-là sont au cœur et sont essentielles dans son œuvre, mais elle va aussi aborder des dimensions beaucoup, beaucoup plus larges, beaucoup plus générales, qui même, dans certains cas, s'affranchissent de toute question liée à l'identité pour aller être plus proche de la dimension de l'érotisme ou la dimension de la terreur ou de l'effroi ou de l'abjection. Je pense que réduire Cindy Sherman ou circonscrire Cindy Sherman à ses préoccupations féministes, c'est comme d'imaginer, je ne sais pas, que l'unique sujet de l'œuvre de Damien Hirst est la mort ou que l'unique sujet de l'œuvre de Marcel Proust est le temps.
Est-ce que ces photos sont autre chose que des mascarades critiques? On parlait de masques.
Oui. Alors, les photos de Cindy Sherman sont toutes des mascarades critiques, mais je pense que ce sont des mascarades critiques, mais aussi des jeux d'enfants, mais aussi des méditations parfois plus mélancoliques, mais aussi, voilà, ce sont d'abord des mascarades critiques, mais qui peuvent ensuite prendre des dimensions beaucoup plus diverses.
À propos du portrait photographique, dans la chambre claire, Barthes dit « Quatre imaginaires s'y croisent, s'y affrontent, s'y déforment. Devant l'objectif, je suis à la fois celui que je me crois, celui que je voudrais qu'on me croie, celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour exhiber son art. » Et Cindy Sherman, elle, ne croit à rien. Elle met précisément, vous le disiez, des masques successifs. Et dans ce sens, d'ailleurs, c'est peut-être Venise qui est le meilleur endroit pour l'exposer.
Alors, Venise est un endroit assez formidable pour l'exposer. Et là, les deux salles de la Punta della Dogana, je crois, le montrent. Cette mascarade, une autre chose qui est importante, c'est à quel point elle fait aussi le lien entre des dimensions très, très différentes de la culture, entre une dimension pop et une dimension souvent très cultivée, toute la série des Old Masters qu'elle a pu réaliser, entre une dimension parfois humoristique et parfois extrêmement noire, il y a un nombre de registres qui est extrêmement riche et extrêmement varié.
Nous allons maintenant entendre Kodachrome de Paul Simon. Elle est extraite de l'album There Goes Rhyming Simon et elle date de 1973. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all the words of a sunny day. Oh yeah, I got an Nikon camera. I love to take a photograph. So mama, don't take Martin Bette, nous parlions dans la première partie de cette émission de Cindy Sherman et de ses masques et d'une peut-être sorte d'impossibilité de la reconnaître derrière ces masques. Mais néanmoins, est-ce que l'ironie même qui est peut-être au cœur de son travail n'est pas une révélation de ce qu'elle est ?
Alors, je pense certainement, ce sont des choses qui se font, bien entendu, de plus en plus présentes au fur et à mesure que l'œuvre se constitue. Et c'est certainement quelque chose qu'on ne pouvait pas dire au début, simplement après ses premières séries. Aujourd'hui, elle est une de ces artistes qu'on peut appeler en milieu de carrière, hein, puisqu'elle est encore extrêmement productive et avec une capacité à se renouveler assez extraordinaire. La longue durée produit une forme de portrait de l'artiste, peut-être malgré elle. Et elle disait une chose assez amusante après ses premières photographies des films Stills, qu'elle a fait donc à la fin des années 70, début des années 80. Elle disait qu'elle cherchait, d'une photographie à l'autre, à être la plus différente possible. Donc à utiliser à chaque fois des coiffures différentes, des perruques différentes, etc. etc. Elle raconte qu'ensuite, dans les 20 années qui ont suivi les films Stills, dans sa vie, elle a peu à peu adopté toutes les différentes coiffures qu'elle avait eues au cours des films Stills. Comme si, dans les 20 ans qui avaient suivi cette série, elle s'était elle-même, dans la vraie vie, à incarner les différents personnages qu'elle avait incarnés dans les films Stills, comme une sorte de vie qui viendrait, dans les 20 années qui suivent, reproduire, retrouver ou imiter la fiction qu'elle avait produite en quelques années à la fin des années 70.
Vous venez de dire « capacité à se renouveler ». En quoi elle se renouvelle ? Ça serait pas grave qu'elle se renouvelle pas, d'ailleurs. Enfin, Marcel Proust a toujours écrit le même livre, si je puis dire, à partir du moment où il a commencé la recherche du temps perdu, et
il ne s'est pas renouvelé.
Non, ce qui est passionnant, c'est à quel point elle arrive à se renouveler dans un systématisme total, c'est-à-dire...
Mais elle se renouvelle comment ?
Ben, elle se renouvelle
le
par...
Le propos est toujours le même.
Oui, mais non, à chaque fois, il va ensuite emprunter d'autres registres. Le registre de la féminité, la question de l'image de la femme, mais le registre, par exemple, du rapport à la culture, du rapport à l'idée du chef-d'œuvre, avec dans toute sa série des Old Masters, dans lesquels elle va revisiter le Bacchus de Caravage ou d'autres tableaux, ou très souvent aussi des tableaux qui n'existent pas, venant inspirer des choses qui pourraient être de tel ou tel artiste sans jamais l'être. De la même manière que ces films stills ne sont jamais rattachables à un film en particulier, ce n'est jamais issu d'un film d'Hitchcock ou de certains peuvent être inspirés, au point que c'était la critique Rosalind Krauss qui, pour les définir, disait que c'était comme des copies sans originaux. La question de l'identité, on sait qu'elle est là, mais cette idée du rapport entre l'original et la copie, entre le maître et le modèle, ce sont aussi des éléments qui sont au cœur de son œuvre. D'autres séries encore plus liées à cette dimension presque bataillenne d'érotisme et d'abjection, c'est quelque chose qui apparaît dans son œuvre dans les années 90, qui n'était absolument pas là précédemment. Donc on voit comment, tout en gardant le même procédé, gardant le même matériau qui est elle-même, elle va aborder une très très grande diversité de thématiques.
Quelle est la part, très simplement joyeuse, d'amusement chez elle ? Parce que dans certaines des photos que vous montrez, on se dit, ou alors c'est peut-être moi, mais que quand elle a un boa autour des épaules, la main sur le cœur et l'œil levé... On sent bien qu'il y a une intention pince sans rire là-dedans qui doit l'amuser beaucoup aussi.
La dimension de plaisir à ce jeu, à ce déguisement, à cette mascarade est, je crois, immense. Et je pense qu'on peut vraiment voir dans beaucoup de ces images comme une forme de part d'enfance, réellement de plaisir à mettre des perruques, des postiches, à faire des grimaces, à caricaturer la bourgeoise de l'Upper East Side ou de caricaturer l'américaine de 60 ans qui refuse de vieillir. Ça l'amuse infiniment. Il y a cette dimension de plaisir est tout le temps présente.
Dans cette forme de pince sans rire, je crois qu'elle s'adapte bien à une exposition qui, vous me direz si je me trompe, tire son titre d'une chanson de Billy Idol, chanteur qui s'était lui-même d'une certaine façon Cindy Shermanisé dans les années 80, puisqu'il avait fini par avoir l'air d'un fils parodique d'Elvis Presley et de Rutger Hauer.
Oui, en tout cas, c'était les mêmes couleurs de cheveux que Rutger Hauer. Oui, le titre de cette exposition vient de l'idée que ce n'est pas talking about myself ou looking at myself, ce n'est pas l'artiste qui se regarde ou qui parle de lui-même, mais l'artiste qui met son corps, son image en mouvement pour exprimer quelque chose, pour parler de quelque chose qui n'est pas de lui. Le choix de Billy Idol, c'était pour prendre une référence qui surtout ne soit pas légitime, nous légitimante, puisque Billy Idol, c'est un peu le moment où le punk perd définitivement toute crédibilité en devenant de la variété. Et cette idée comme ça de références pop qui ne se prennent réellement pas au sérieux était quelque chose de très important.
Est-ce que vous pensez que chez elle, il y a aussi, outre la part de commentaires sociaux, de critiques sociales dont nous avons longuement parlé, est-ce qu'il y a aussi une part de critiques et de commentaires de son propre milieu et de la photographie ou de l'art tel qu'il est en ce moment ? Moi, elle me fait penser par moments à Fielding, le romancier du 18e, qui avait écrit un roman qui s'appelait Shamela, par parodie d'un grand succès de l'époque du Pamela de Richardson. Et elle a un peu de ça.
Alors, je pense qu'elle parodie et qu'elle joue et qu'elle critique et qu'elle s'amuse aussi bien avec les artistes, effectivement, mais aussi le monde de l'art, mais aussi le monde des collectionneurs, mais aussi le monde de la mode. On n'en a pas parlé encore, mais c'est un monde qui est très important dans son travail. Dès les années 70, elle a commencé aussi à travailler avec des maisons de mode. Et la chose amusante est que la première maison avec laquelle elle a travaillé, ou les vêtements de qui elle a travaillé, c'était une marque dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Dorothée Biss. Et cette idée d'un prénom ajouté au mot bis a comme une sorte de chose prémonitoire pour l'œuvre de cette femme qui ne cesse de parler d'elle-même en se démultipliant à l'infini, mais aussi bien avec Comme des garçons ou avec Balenciaga. Et donc oui, elle critique tout le temps, elle s'amuse tout le temps de ces choses qui sont aussi elle-même ou qui sont autour d'elle.
Alors, elle a d'abord, au début de sa carrière et pendant très longtemps, fortement affirmé que son œuvre n'était pas autobiographique, qu'elle n'utilisait son corps que comme mannequin en quelque sorte. Et puis, dans une interview au Times, au New York Times, du 21 avril 2016, elle a dit que son œuvre pourrait être qualifiée d'autobiographique. Alors, c'est très étrange parce que tout d'un coup, alors qu'on vient de dire tout ce qu'on vient de dire, on se demande si elle ne sape pas même tout son travail en disant ça.
Non, je pense qu'elle vient au contraire montrer à quel point il est profond et à quel point il n'est pas réductible à une lecture unique. Voilà, on ne peut pas simplement dire que elle n'est qu'une suite de masques ou qu'une suite de personnages sans le moindre rapport à l'autobiographie. Je pense que montrer à quel point la fantaisie peut être autobiographique, à quel point l'art conceptuel peut être aussi accessible, à quel point une chose n'est pas réductible à sa simple essence, mais peut aussi être le contraire, être en partie une contraire, son contraire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui donne toute la profondeur à son œuvre.
Mais dans quoi elle serait tout d'un coup autobiographique, cette œuvre, à part qu'on voit apparaître des rites dont nous avons parlé, qu'on peut se dire, tiens, elle vieillit avec son œuvre?
Non, je ne crois pas qu'elle dise que c'est avec ces séries que son œuvre devient autobiographique. C'est, je pense, qu'elle, au long cours, l'ensemble de son œuvre et ce qu'il constitue finit par tracer une ligne qui a quelque chose à voir avec l'autobiographie.
Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait, en disant ça, avoir tenu compte de l'objection majeure de Brecht contre la photographie, qui disait qu'il n'aimait pas la photographie parce qu'elle avait une puissance critique très limitée, et que donc, est-ce qu'on pourrait pas dire que s'étant rendu compte de ça, et que la portée critique était peut-être minime dans une œuvre de création, elle se dit qu'il vaut mieux aller vers quelque chose de plus intime et de plus personnel?
Non, je pense pas du tout. Je pense que la phrase de Brecht correspond sans doute à un moment très particulier de la photographie, au regard qu'il pouvait avoir sur elle également. Mais la photographie a montré, l'avait déjà montré dans les années 30 et n'a cessé de le montrer. Elle est un médium, elle est une discipline d'une richesse immense. Et c'est vrai que l'un des grands développements de la photographie depuis les années 70, c'est que la photographie n'est plus la photographie. La photographie est une discipline artistique exactement au même titre, sur le même registre que les autres, et qui n'a plus cette spécificité photographique que, voilà, je crois que tout ce qui touche à essentialiser la photographie, surtout telle qu'elle est pratiquée par des artistes comme Sidney Sherman ou des artistes de cette génération, est très réducteur et en fait très souvent à côté de la plaque.
Quelle va être l'évolution possible de Cindy Sherman d'après vous? Elle vient, je vous dis ça parce qu'elle a joué tout récemment un personnage de fiction, elle a joué un personnage dans un opéra que vient d'écrire Rufus Wainwright, Prima Donna. Est-ce qu'elle pourrait devenir vidéaste en utilisant à nouveau son corps comme modèle pour faire autre chose? Est-ce que...
Alors je serais bien en peine de vous le dire, c'est vrai que au-delà, enfin parallèlement à son travail strict de photographe d'elle-même, elle a déjà réalisé un film, hein, Office Killer. Elle a déjà effectivement interprété un rôle inspiré de Callas dans le film que réalise l'artiste Francesco Vezzoli avec les musiques de Rufus Wainwright. Elle a aussi collaboré avec un autre photographe de mode, Jürgen Teller, dans des séries dans lesquelles ils ont comme ça joué alternativement le jeu de l'autoportrait et de la photographie qu'ils avaient fait avec le créateur de mode Marc Jacobs. Elle a abordé récemment ce champ de l'Instagram. Donc je serais très embêté de vous dire où elle va, mais en tout cas, elle ne cesse d'avancer, de défricher des champs nouveaux, mais toujours avec cette même constance, cette même rigueur dans la démarche et dans l'usage d'un seul et unique matériel.
Martin Bettenau, que vous ont appris les personnages de Cindy Sherman?
Alors, Cindy Sherman enseigne peu et très peu donneuse de leçons. Et c'est plutôt, j'aurais peut-être désappris des choses plutôt qu'appris. Non, au-delà de cette boutade, je pense que ce qu'elle apprend, ce qui frappe, c'est à quel point aujourd'hui l'art peut être aussi peu monolithique, peut être aussi peu se prendre au sérieux, peut mélanger à ce point une dimension conceptuelle et une dimension extrêmement accessible, peut mélanger la légèreté et la profondeur, peut mélanger l'humour et l'effroi. Voilà.
C'était Personnage en personne, le 40e.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Jean-Baptiste Etcheparobord.
Le paradis acquis. c'était un grand jeudi. Tous les jours paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de la rue, mon paradis.